C'est un podcast Vivre FM.
Entre nous, tout simplement, avec Ornella Dampron.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les jours. C'est un vrai moment de bonheur, de découverte, de partage où le parcours de nos invités vont sûrement vous surprendre, vous émouvoir, vous faire rire, peut-être vous donner des idées et j'espère surtout vous faire rêver. Ils ont des vies singulières, atypiques, différentes. C'est dans la joie, la bonne humeur mais surtout la bienveillance que nous allons passer cette heure ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme comme un bon lundi matin. Nous sommes ensemble pendant une heure où ce matin nous allons découvrir une femme avec des mains en or. Une véritable alchimiste de la musique et des notes. Elle, la pianiste, avec ses doigts qui tapotent et qui dansent sur le clavier, laissant sa virtuosité nous emmener comme conviée à la découverte de ses musicalités. Chaque morceau interprété nous ouvre des horizons derrière la fenêtre secrète de la partition magique. Elle a su mettre son savoir au service des autres, tout en simplicité et en générosité. Ce matin, elle va nous raconter son histoire, son parcours, nous parler de sa fondation. C'est une heure de magie musicale que nous allons passer à ses côtés avec Elisabeth Sombard. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Oh, il faut que vous parlez un tout petit peu plus fort, je ne vous entends pas beaucoup.
Alors, est-ce que vous m'entendez?
Ah, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, Elisabeth, on va faire un tour à 360 degrés sur votre vie. Mais avant ça, j'ai une petite question pour vous. Vous savez, Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Alors, en début d'émission, j'ai pour habitude de demander à mon invité, en un mot, Elisabeth, c'est quoi votre différence à vous?
Aïe, une question du lundi matin. Ma différence, c'est très difficile de vous répondre à cela parce que, en fait, je me sens pas différente. J'ai toujours l'impression que ce que je fais est normal. Alors, la différence, c'est que j'ai eu un don à la naissance et que j'ai été obligée d'y répondre, même si je rêvais d'avoir un métier normal, d'avoir le week-end, d'avoir des vacances, etc. Je me rappelle que quand j'étais toute petite, déjà à 7-8 ans, c'était mon premier concert, j'avais 11 ans. Donc je me disais, j'ai pas travaillé ce week-end, mais c'est affreux, on va partir en vacances, est-ce que je trouverai un piano? Alors ça, c'était une vraie différence. C'est-à-dire, ce sentiment d'exigence, de devoir répondre à quelque chose qu'on porte en soi, qui ne nous appartient pas complètement, hein, et qui est plus grand que nous. Et ça, peut-être, c'est la première chose qui me vient comme réponse.
Alors, on va fermer les yeux, on va prendre une grande inspiration et on va embarquer notre bienveillance et notre amour avec nous. C'est parti pour une heure ensemble. Bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM.
Vous écoutez Entre nous
avec Ornella Dampron.
Quand mon invitée se concentre, elle regarde le ciel et réfléchit en silence. Elle hésite un moment, lève les mains légèrement. Le temps s'arrête un instant, mais ses doigts rapides se posent avec douceur et l'élégance sur les touches, comme virevoltent les plumes à travers les nuages. Les paupières se ferment le temps et c'est reparti. La musique s'échappe, s'envole et s'enfuit et elle nous emporte, elle nous embarque avec elle dans cette sublime mélodie. Elisabeth, à quel âge vous avez commencé le piano ?
J'ai commencé le piano dans le ventre de maman parce que
elle
jouait du piano.
Ah, votre mère jouait du piano ?
Oui, elle n'était pas professionnelle, mais elle jouait et elle a joué beaucoup pendant toute la grossesse de mon frère jumeau et moi, parce qu'on était deux à écouter. Et en fait, c'est très curieux ce que je vais vous raconter. Quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai travaillé le concerto de Grieg. Et quand j'ai déchiffré le mouvement lent, j'avais une telle impression de le connaître, mais de le connaître profondément. Parce que, bien sûr, on connaît beaucoup d'œuvres, on les écoute pendant notre apprentissage. Mais là, il y avait quelque chose de spécial.
C'était viscéral.
Je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'ai appelé maman, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu jouais quand tu nous attendais? Et elle m'a dit, le mouvement lent du concerto de Grieg. Et vous voyez, ça m'a donné les frissons parce que je me suis vraiment... je suis la preuve vivante, voilà, que les enfants, les bébés entendent la musique, ils perçoivent vraiment l'émotion de la musique. Et c'est pour ça que beaucoup plus tard, j'ai fait un disque des berceuses pour les mamans enceintes et pour après, quand le bébé naît,
qui est voilà, une continuité.
Il y a beaucoup de personnes qui ont mis au monde sur ce disque d'ailleurs, les berceuses.
Vous avez donc commencé très 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 jeune. Le piano, c'était inné, c'était quelque chose que vous aviez envie. Est-ce que vos parents vous ont dit « Oh tiens, ça serait bien que tu essayes de faire du piano » ou c'est vraiment quelque chose qui était, comme on disait tout à l'heure, viscéral? Vous aviez une envie d'aller pianoter, justement?
C'était viscéral. Et c'était à tel point que je passais des heures sous le piano à écouter ou maman ou les pianistes qui venaient à la maison. Et je savais, même si je ne pouvais pas le dire comme je vous le dis maintenant, qu'il y avait dans ce monde non seulement quelque chose de rassurant, mais quelque chose de comme une consolation éternelle. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'incarner quand j'étais petite.
Oui.
Et en fait, ce monde de la musique classique, j'ai su vraiment, même si je ne pouvais pas le dire avec ces mots, que c'était mon monde et le monde à travers lequel...
Vous aviez envie d'évoluer?
Oui, et puis résoudre aussi et apporter ce qui est au-delà des mots, ce qui est de l'ordre de l'indicible, en fait.
Ah, ça va, c'est allé jusque-là. Vous avez commencé par un chemin normal, c'est-à-dire le conservatoire pour commencer?
Oui, j'ai commencé avec une professeure privée d'abord et ensuite le conservatoire de Strasbourg. De là, je suis partie à Paris. Au moment d'entrer au conservatoire de Paris, j'ai fait l'examen que j'ai réussi. Et puis là, j'ai fait la rencontre avec mon premier maître, vraiment, que j'ai adoré, qui s'appelle Bruno Leonardo Gelber, qui est un très, très grand pianiste argentin et que j'allais écouter depuis des années. Je veux dire, j'aurais fait des kilomètres à pied pour aller l'écouter.
Mais là, c'est pas à pied que vous avez fait des kilomètres pour le coup, pour y aller?
Alors là, ça a été une histoire incroyable, parce qu'un jour, j'étais déjà à Paris, et maman m'a appelé de Strasbourg, elle m'a dit, tu sais, ton Gelber est à Strasbourg, et il y a une réception après chez des amis à nous, bah viens. Alors évidemment, j'y suis allée,
oui.
Et j'oublierai jamais ça, parce que le ciel, si je puis dire, vous tend la main, et... il faut avoir le courage de prendre cette main quand elle arrive, parce qu'elle ne se reproduit plus. Et là, ce soir-là, je me rappelle, je suis arrivée à la réception, ils m'ont dit, mais je vous connais, vous. Je dis, oui, je viens souvent à vos concerts, et voilà, je suis une jeune admiratrice. Et vers 2h du matin, à la toute fin de cette soirée, il y avait un piano chez ces personnes. Je rends hommage d'ailleurs à... Monsieur Liedman, c'était chez lui que ça s'est passé. Il m'a dit, jouez-moi quelque chose. Et là, on est là, j'ai senti que c'était une main qui
tendue.
Je sais pas comment vous dire, tendue, vraiment, offerte. Et je sais pas avec quel courage je me suis assise au piano, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement timide, j'avais pas du tout confiance en moi. D'ailleurs, c'est pas que ça va mieux aujourd'hui, mais avec l'âge, je me suis arrangée avec ça. Et je me rappelle, je lui ai joué la barcarolle. Moi, quand j'y pense maintenant, j'ai osé lui jouer ça. Alors, il m'a écouté jusqu'au bout, bien sûr. Et puis, il m'a dit, vous avez autre chose encore à jouer? Et je me souviens, je travaillais un Schubert très difficile, la Vanne de Rassemblée. Et je lui ai joué. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai allumé toutes les lumières. J'ai dit, ça y est, j'ai joué pour Bruno. C'était extraordinaire. Tout le monde dormait. Tout le monde.
Un moment magique, quoi. Oui.
Mais pour moi, c'était un moment. Mais le grand moment, ça a été le lendemain. Quand maman m'a dit, viens au téléphone, Bruno Gelber t'a appelé.
Oh,
alors, je n'en revenais pas, c'est comme si je disais, je sais pas, le pape vous appelle.
Bon,
je
vois, c'est
impossible. Et là, il m'a demandé de venir à son hôtel. Il m'a dit, je quitte Strasbourg dans 10 minutes, mais j'ai quelque chose à vous dire.
Oh, j'imagine même pas dans votre tête comment ça se passe dans votre corps. On se dit, waouh.
Ah ouais, non, c'était incroyable. Et surtout qu'il m'a dit trois choses dont je n'ai rien compris, mais j'ai dit oui à tout. Il m'a dit, premièrement, vous devez savoir que pour faire cette carrière, il faut que vous soyez capable d'accepter que quelqu'un se suicide dans la chambre d'hôtel à côté de vous et que vous n'avez rien à voir avec ça. Moi, j'écarquillais les yeux.
Pardon ?
Plus tard, j'ai compris. Hein.
Okay.
Beaucoup plus tard, j'ai compris. Deuxièmement, votre petit minois ne me fait ni chaud ni froid. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça ? Et là aussi, on pourrait en parler, mais bon, j'ai écouté. Et troisièmement, vous avez un talent, je ne dis pas les mots, parce que ça pourrait paraître orgueilleux.
Ah, mais si, dites-le.
Bah, il m'a dit, vous avez ce qui ne s'apprend pas. C'est-à-dire que quand vous jouez, ça passe. Et ça, ça ne s'apprend pas. Par contre, il me dit, votre technique, vous êtes en train de brûler la bougie par les deux bouts. Je me souviendrai toujours de cette expression. Et donc, il faut que je consolide votre technique. Donc, je vous propose, et en gros, vous avez 10 minutes pour me répondre, de venir en Argentine et de travailler avec moi et ma mère.
Comme ça.
Moi, je l'ai regardé et j'ai dit oui.
Bah, bien sûr.
Et la suite de ça a été extraordinaire parce que la manière dont j'ai trouvé l'argent pour payer le billet d'avion, parce qu'il m'avait dit, vous ne payerez pas les leçons. Il faut juste que vous payiez votre billet d'avion et vous habiterez chez une dame qui accueille des pianistes. Vous n'êtes pas la première à venir dans les étudiantes. Et voilà. Parce que vous voyez bien que je ne pourrais pas payer tout ça. Et pour vous dire, je ne sais pas si je voulais que je vous raconte ça, mais j'avais...
Ah si, si, on veut tout savoir, c'est hyper intéressant.
J'habitais chez ma grand-mère, qui est la personne qui sait que je ne suis pas morte d'anorexie affective, parce qu'elle m'aimait. C'est toujours important dans une famille d'avoir une personne qui vous aime et qui croit en vous, et c'était elle. Et j'étais tellement heureuse de quitter Strasbourg et d'aller vivre chez elle. Et là, j'avais un élève, place Victor Hugo, pour gagner quelques petits sous, des élèves particuliers. J'ai toujours enseigné, j'ai toujours adoré enseigner. Mm-hmm. Déjà, quand j'avais 15 ans à Strasbourg, j'avais plein d'élèves et quelquefois qui étaient beaucoup plus âgés que moi, mais j'ai toujours... même, vous savez quoi, Ornella, quand j'avais 8 ans, je sortais dans la rue, on habitait à la campagne, pour faire venir les gens et leur montrer comme c'était beau la différence entre le majeur et le mineur qui devient triste. Il fallait absolument toujours que je partage...
votre amour.
Oui, et ça m'est resté. Souvent, les gens m'ont dit, mais Elisabeth, ne dis pas tout, ne... Mais je ne peux pas m'empêcher de partager. Alors, je reviens, donc je suis à Paris dans ce café, et là, j'étais en train de me dire, où est-ce que je vais trouver l'argent pour acheter ce billet d'avion?
Parce qu'à l'époque, ça coûtait combien un billet d'avion pour aller jusqu'à Buenos Aires?
Je m'en souviens très bien, c'était 5400 francs. C'est-à-dire une somme que je pouvais à peine prononcer.
Ouais.
Et c'était un billet de charter qui passait par Casablanca, je m'en rappelle, Casablanca, Rio... Rio, São Paulo et Buenos Aires.
Oui, donc c'était pas un petit voyage en plus, c'était pas indirect, quoi. Hein?
Ah non, j'avais choisi le moins cher.
Ouais, donc ça, ce qui revient à peu près à 1 000 euros, 900 000 euros aujourd'hui, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, je pense, à peu près.
Donc vous avez fait comment vous avez trouvé l'argent?
Alors là, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc je suis assise à ce café devant ma tranche de jambon, comme chaque jeudi. Et là, le garçon café m'apporte un steak frites. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans ma tête, j'étais en train de me dire, pour trouver l'argent, je pensais à des trucs abominables, genre Madame Claude, des trucs...
Oui, se dire, il me faut de l'argent, je vais tout faire pour.
Ouais. Donc, il arrive avec ce steak frites, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais bien que je ne peux pas payer ça. Ah, il me dit, écoute, il y a deux hommes là-bas qui trouvent que vraiment, tu as l'air d'une pauvresse, et ils t'offrent ça. Alors, écoute, moi, j'en sais rien. Alors, okay. Moi qui étais en train de faire des plans abominables, je dis comment, mais moi je n'accepte pas le... Je l'ai mangé quand même parce que j'avais faim. Et ils sont venus à ma table à la fin. Et un des deux me dit, il s'appelait Léo Havard. Je le dis parce qu'on a fait un film là-dessus et 30 ans après, il était là et c'était vraiment beau ce témoignage. Et donc il me regarde, il me dit, pourquoi vous avez l'air si triste? Je lui dis, mais parce que je dois partir en Argentine. Travailler avec Bruno Gelbert, parce que moi, tout le monde devait connaître Bruno Gelbert.
C'était normal.
Mais oui. Et j'ai pas de sous pour acheter le billet, donc je réfléchis. Ah, il dit, c'est pas grave, je vais vous donner une bourse.
Pardon.
Et là, je me dis rien. Je regarde. Et l'autre monsieur qui était à côté de lui, il dit, oui, mais c'est vrai, hein, c'est son métier de donner des bourses. Et là, on est là. Je me lève du café. Je suis cet homme que je ne connaissais pas. Je vais dans un appartement absolument magnifique rue Copernic, il habitait juste à côté, magnifique appartement, il m'assoit devant son bureau, il me dicte une lettre, cher monsieur, je sous-signais Elisabeth Samba, n'ai pas d'argent, l'Argentine, Bruno Gelbert, il me dit très bien, combien vous voulez? J'ai dit le billet c'est 5400, il me dit bon bah on va mettre 6000, on va arrondir. Hein.
Oh bah oui, tant qu'à faire, on va arrondir au-dessus.
Hein. Voilà, alors fait le chèque, il prend ma lettre, il la photocopie, me donne la photocopie, le chèque de 6000 francs, et montre en main, 15 minutes après, j'étais dans la rue, avec ce chèque. Ornella, je n'oublierai jamais, il y a eu un rayon de soleil, croyez-moi, qui est tombé sur mon chèque que je tenais à la main dans cette rue. J'étais complètement... et je me suis dit, personne va me croire, sauf ma grand-mère. Oui. Ça, c'est vrai. Et voilà, je crois que dans la vie, j'ai eu beaucoup, beaucoup de souffrances et de malheurs, comme tout le monde. Mais j'ai eu aussi, toujours extrême chez moi. C'est comme les gens, où ils me haïssent d'une manière incroyable, je ne sais pas pourquoi, ou ils m'adorent trop, mais il n'y a pas au milieu. Et donc, voilà, je suis partie. En plus, j'étais toute seule, j'étais claustrophobe, je n'avais jamais pris l'avion. Et plus tard, beaucoup plus tard, j'ai appris à être reconnaissante et puis gentille avec cette petite fille qui, finalement, faisait des choses incroyables de courage, au fond, et avec en même temps une peur au ventre qui était...
Oui, une peur au ventre énorme, mais c'est important de souligner et de dire que, effectivement, dans la vie, c'est pas de la chance que vous avez eu beaucoup de courage. C'est important de le dire, c'est important de le souligner. Elisabeth Sombart est avec nous aujourd'hui. Dans un instant, on continue de parler de votre carrière incroyable. Et puis aussi, on va parler de votre fondation. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
Entre nous, votre émission de témoignage sur Vivre FM. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Charlie Puth et Meghan Trainor sur Vivre FM.
Vous écoutez Entre nous
avec Ornella Dampron.
Vivre FM, nous sommes ensemble pendant une heure de découverte et de partage. Il est 10h22, c'est la deuxième partie de l'émission et je suis en compagnie d'Elisabeth Sombart, pianiste de renommée. Nous parlions justement dans la première partie. Elisabeth, vous m'avez vendu du rêve avec votre histoire folle. Comment vous êtes partie, vous vous êtes envolée à Buenos Aires, vous la timide strasbourgeoise qui étiez toute renfermée un petit peu, qui n'osait pas faire les choses, et finalement, vous avez pris votre courage à deux mains. Ça ne s'appelle pas de la chance, ça s'appelle juste du courage, et vous êtes partie. Partie pendant combien de temps en tout, Elisabeth ?
Bah, presque plus que 6 mois.
Ah, quand même,
hein. Oui. Et c'était magique parce que... Bon, d'abord, je parlais pas l'espagnol, mais j'ai été élevée par des parents et des grands-parents qui parlent toutes les langues. Et je me rappelle que mon grand-père géorgien, qui est donc le mari de ma grand-mère écossaise, chez qui je vivais à Paris, m'a dit, quand tu viens... Parce que je lui disais, pourquoi tu écris l'histoire de la Révolution russe en français? Pourquoi tu l'écris pas dans ta langue? Il m'a dit, parce que quand on est accueilli dans un pays, on parle sa langue et c'est la manière de rendre grâce. Et quand tu arrives dans un pays, fais l'effort tout de suite d'apprendre leur langue. Ce que j'ai fait quand je suis arrivée là-bas, oui. Et je dois dire qu'en presque même pas 2 mois, je parlais bien l'espagnol. J'arrivais en tout cas à me faire comprendre et à comprendre les cours. Et puis c'est une langue que j'aime et que je parle encore. Et voilà. Et donc... je suis arrivée là-bas. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est que même si je venais d'un milieu culturel européen, plus qu'européen, puisque je suis un quart breton, je suis un quart allemand, un quart écossaise, un quart roumaine et un quart géorgienne. Donc j'avais toute ma vie entendu que le monde n'était pas que l'endroit où on vit.
Oui.
Et là, je me rappellerai toujours que la dame chez qui je vivais, on était devenus amis et elle me faisait regarder la télévision avec elle. Je regardais les nouvelles, ça m'a aussi aidé à apprendre l'espagnol. Et je lui ai dit, mais c'est bizarre, ils ont mis l'Argentine au milieu, c'est la France qui est au milieu. Et elle m'a dit, non, c'est pas la France qui est au milieu, regarde, la France est tout petit. Et en été, je m'a ouvert la conscience, c'est pas ça, ça, une sorte d'illumination ce jour-là, je me suis dit... Mon Dieu, il y a une vastitude, il y a quelque chose qui est plus grand que nous, il y a quelque chose dans lequel il faut revoir toute sa manière de penser, et ça a été le premier choc pour moi, comme jeune fille, moi j'avais 17 ans, c'était, voilà, mais j'ai adoré ce séjour, c'était aussi, je sais pas, j'avais le sentiment d'être tellement privilégiée, d'être... Alors, j'étais pauvre, mais c'était pas grave. Et je me souviens, il y avait une petite épicerie où ils vendent plein de choses, un peu comme une droguerie plutôt. Et ils me voyaient passer tous les matins prendre le bus. Et il m'a dit un jour, vous avez faim? Un peu, je lui ai dit. Et il m'a donné, et ça restait aussi pour toute ma vie, un peu de dulce de leche. Alors ça, c'est... une espèce de chose extraordinaire. Je ne peux même pas vous imaginer comme c'est bon. C'est une spécialité argentine. C'est fait avec du lait condensé, puis ça devient... c'est cuit au bain-marie, et on met de la vanille dedans, et ça devient un peu brun, comme ça, comme du caramel, je ne sais pas comment expliquer. Et quand vous mangez ça, bah, vous n'avez plus faim. Et je me nourrissais de ça, et tous les 3 jours, il me donnait un pot de dulce de leche. Comme ça, j'ai su qu'il y avait dans la vie des aides invisibles... Les aides, au fond, le ciel, Dieu, les anges, comme vous voulez les appeler, passent par nous pour donner de l'amour et de l'émerveillement. Et cette surprise, tous les jours, il y a une surprise, au fond, dans nos vies, si on sait la regarder.
C'est vrai.
Il y a un cadeau. Oui.
Il y a une phrase de Jean
vous
Cocteau.
Vous en êtes un, d'ailleurs, en Vélas. Oh. Je ne vous connaissais pas, et la manière dont vous m'avez présenté, la manière dont vous parlez, il y a une telle sensibilité, une telle poésie, vraiment, ça me fait plaisir.
Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. J'allais juste rebondir sur le fait qu'effectivement, il y a une phrase de Jean Cocteau que j'aime énormément, qui dit « Le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. »
Je ne savais pas que c'était dit, on m'avait dit que c'était Einstein qui avait dit « Le hasard est le nom que prend Dieu quand il veut rester anonyme. » Mais bon, tout à
voilà, fait, ils ont tous repris cette phrase et l'ont mis à leur sauce. Mais oui. Mais oui. Donc alors, racontez-moi, parce que là, on continue, on est à Buenos Aires, mais il n'y a pas eu que Buenos Aires. Vous êtes rentrée et vous êtes allée où après?
Alors, je suis rentrée. Vous savez, si vous voulez vraiment qu'on fasse ça, on en est jusqu'à ce soir. Hein. Alors, mais je vous raconte encore ça. Donc, je suis rentrée et comme le monsieur, mon boursier, comme je l'appelais, que j'avais rencontré au café m'avait dit « Vous me donnerez des nouvelles ?» Parce que finalement, il pouvait, j'aurais pu lui avoir raconté mais n'importe quoi au fond.
Hein. Vous partiez avec le chèque et puis merci, au revoir.
Oui, mais c'est ça, oui. Donc la première chose que j'ai faite en rentrant à Paris, d'abord ma grand-mère qui était malade m'a attendue. Et juste avant que je parte, elle avait été à l'hôpital gravement malade et elle ne pouvait plus parler. Et je lui ai dit « Est-ce que tu veux que je repousse mon voyage en Argentine et je reste ? Si tu me dis oui, tu lèves le doigt. Si tu me dis non, tu ne bouges pas la main, que je peux partir. » Et très, très lentement, elle a monté son doigt, son index pour me dire que je pouvais partir et qu'elle m'attendrait. Donc, elle était là à mon retour et j'appelle mon boursier. Je lui dis, voilà, c'est moi. Alors, il m'avait complètement oublié, bien entendu. Je lui ai dit, mais vous savez, la pianiste qui est partie en Argentine, il faut que je vous raconte tout ce que j'ai appris et tout ça. Donc, on déjeune ensemble. Je lui raconte tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais rencontré, tout ce qui avait fait ma vie pendant plus de 6 mois. Il me dit, très bien, où est-ce que vous allez maintenant? Ben, je lui ai dit, je ne sais pas trop, je suis un peu à la rue, comme d'habitude. Moi, j'avais un tropisme, je finis toujours à la rue. Mais je pourrais aller peut-être en Italie. Très bien, il me dit, vous avez besoin d'une bourse? Ah oui, je lui ai dit, ça pourra certainement me servir. Et d'ailleurs, avec la bourse qu'il m'a donnée pour aller à Rome, je suis allée à Rome, j'ai acheté beaucoup des partitions que j'ai encore aujourd'hui, bien sûr, qui sont les partitions de notre répertoire. Et voilà, et j'ai passé quelques temps à Rome. Ensuite, je suis allée à l'Académie de Vienne, en Autriche. Oui. Il m'a aussi donné une bourse, là, pour pouvoir être à Vienne. Là, j'ai appris tout ce que la tradition vraiment pianistique et musicale nous enseigne sur les classiques, surtout Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, comment les interpréter, quelles sont les règles, en tout cas vu de la tradition. Mais surtout, j'ai fait là une rencontre extraordinaire. Alors, j'arrive au conservatoire, je suis dans la classe de Hans Graf, qui était un très grand professeur à l'académie, dans la section internationale, puisque j'étais étrangère. Et je me rappellerai toujours. C'est drôle, vous me faites me rappeler ça. Mais je ne sais pas si ça intéressera les auditeurs, mon Dieu. Vous m'arrêtez si ce n'est pas intéressant ce que je raconte.
C'est très là, intéressant, ne vous inquiétez pas.
Un matin, il faisait un froid, mais tellement, il faisait tellement froid à Vienne, je ne sais pas, genre moins 30. Et j'arrive pour le cours de piano, on était une dizaine d'élèves, 8 en fait. Et j'avais les doigts complètement gelés, tout le monde avait les doigts gelés. Je me suis dit, mais comment on va jouer? Parce que c'est un cauchemar de jouer du piano avec les doigts froids.
Ah oui, je me doute.
On perd la moitié de ses techniques, vraiment. Vive les pays chauds, là, on n'a même pas besoin de travailler, on est toujours en doigts. Et là, un garçon de ma classe, qui était allemand, il s'assoit au piano et il joue une étude de Chopin après l'autre. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus difficile techniquement. Comme s'il n'avait pas froid aux mains, comme si.
Normal.
Et là, je me dis, là, il y a quelque chose, je dois comprendre. À la fin du cours, je vais le voir, je lui dis, comment t'as fait, comment tu fais? Il m'a dit, tu devrais aller voir Hilde Langerhüll. Elle est moins connue, elle a une classe très spéciale, va la voir de ma part. J'arrive immédiatement dans la classe de cette dame, qui m'habite, je ne joue pas du piano sans elle. Il y a des gens comme ça qui restent en vous et avec qui vous jouez pas à quatre mains, vous jouez à mille mains finalement. Et je lui demande si elle est d'accord. Je lui joue quelque chose. Elle m'accepte dans sa classe et elle me dit, écoute, on ne joue pas du piano avec les doigts, mais avec le diaphragme. Pardon ?
Ah bon ?
Ah bah oui, elle me dit. Alors je venais de passer 6 mois en Argentine à faire des exercices techniques, des doigts, des muscles, des choses et ça. Elle me dit non, il faut jouer avec une force qu'on a à l'intérieur. Et non, elle avait été très loin parce qu'elle avait une sorte de machine de radiographie pratiquement, et elle faisait la démonstration des deux premiers accords de l'opus 111 de Beethoven, joués avec diaphragme ou sans diaphragme, simplement avec les mains. Et là, j'ai compris qu'avec elle, mais ça m'a pris des mois, d'ailleurs les premiers mois, on était couchés chez elle, par terre, à apprendre à respirer, et elle me disait, tant que tu n'as pas accepté de respirer, tu n'as pas accepté de vivre. Et donc, tout ce travail de comprendre ce qui se passe dans notre intériorité, je le lui dois vraiment, et ça a été une ouverture énorme. Et vous savez, je m'en rappellerai toujours qu'une fois je me suis dit, en fait, elle a raison, je ne sais pas si j'ai envie de vivre. Et donc, si je ne peux pas respirer la musique, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et donc, tout est lié. Donc, le geste, pour que le geste soit épiphanique, pour que le geste porte la lumière et son vrai message, il ne peut pas être une chose en soi. Il est la conséquence d'une vie intérieure, d'un mouvement intérieur, d'une impulsion intérieure. Et donc, on travaillait, mais dans les moindres détails, dans cette mesure, l'impulsion est comme ça, la proportion juste est ça. Et ça a été un monde qui s'est ouvert à moi. Et ça, pour moi, c'est Vienne, Hilde de la Nierule.
Comme quoi, avec les voyages forment la jeunesse. On dira ça comme ça, sur ce coup-là. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a interprétée dans votre bio. Une pédagogie phénoménologique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ?
La phénoménologie de la musique, c'est l'étude... j'ai écrit 400 pages de cette pédagogie. Mais en une phrase, s'il fallait dire, c'est l'étude de la relation directe qu'il y a entre notre monde affectif et la logique sensible des phénomènes sonores et comment les relier, comment les mettre en relation pour créer l'unité. C'est-à-dire que pour le dire simplement, si j'avais un piano, je vous montrerai tout de suite et vous comprendriez tout de suite.
Oui.
Vous pouvez jouer deux notes qui vont rester deux notes séparées ou les mettre en relation de telle manière que vous créez une relation et plus deux choses. Et donc, ça a été la dernière grande révélation dans mon apprentissage. Et c'est le maître Chili Bidake, qui est un très grand chef d'orchestre roumain. La phénoménologie parle de Husserl, mais la phénoménologie de la musique, et en Sermet aussi, on avait parlé, enfin écrit beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment Chili Bidake qui a été le plus loin. Nous, on a continué après à développer tout ça, encore et encore. Mais là aussi, c'est le même choc que j'ai eu avec Lalé Rull quand elle m'a dit « on joue du piano avec son diaphragme ». Lui, il disait « à quoi sert d'avoir le geste juste si votre phrasé n'est pas juste ?» Et il y a un phrasé. Et ça a été une très très grande ouverture de conscience. Parce que ça touchait justement à l'ego. Et je me rappellerai toujours d'une chose, la première fois que j'ai joué à Chili Bidake, qui était un professeur vraiment très 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 dur, un maître reconnu, même pour être souvent même un peu méchant, on pourrait dire. Moi, j'ai eu de la chance, parce que figurez-vous que Chili Bidake, quand il était jeune, habitait chez mes grands-parents à Berlin. Et donc, d'une certaine manière, quand je suis arrivée, je faisais partie un peu de la famille. C'est pas que j'étais meilleure que les autres, hein, mais en tout cas, il avait avec moi une attitude qui a toujours été...
Différente.
Adorable et différent. Oui. Et je me souviens que la première fois que j'ai joué devant toute la classe, hein, on avait des cours à Mayence, en Allemagne, il y avait des séminaires 2-3 fois par an, et là, devant tout le monde, il a dit « Alors, va jouer telle nocturne que j'ai jouée. » Il m'a arrêté au bout de 4 mesures, et il m'a dit « Mais tu vois, ce petit essai que tu fais là, c'est pas de la musique, c'est un effet de ton ego, de ta névrose. » J'ai dit, mais moi je fais ça parce que je trouve ça joli. Il dit, mais la musique n'est pas jolie, elle est ou elle n'est pas. Et elle n'est pas faite pour que vous disiez votre sensibilité, elle est faite pour qu'à travers votre sensibilité, vous révéliez quelque chose qui est plus grand que vous. Et là, ça a été un choc, Ornella, parce qu'on a peur à ce moment-là de perdre notre sensibilité propre, on a peur de perdre ce qu'on croit être notre personnalité. Et on découvre petit à petit dans ce chemin, qui est un chemin de vie, la pédagogie de la musique, qu'au contraire, en s'affranchissant de tous ces mois social, psychologique, affectif, enfin, tout ce que vous voulez, on arrive dans notre intériorité à cet endroit où le moi est juste au service d'une écoute agenouillée, d'une écoute qui va révéler autre chose que nous-mêmes, mais sans nous, bien sûr, ça ne peut pas se faire. C'est une subjectivité.
Une déconstruction pour une reconstruction intérieure. En tout cas, Elisabeth Sombard, vous êtes avec nous aujourd'hui et vous n'avez pas fini de nous surprendre. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h et on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
Entre nous, l'émission de confidence et de résilience sur Vivre FM.
Sinking slow motion, every superficial moment. I get past the emotions,
thankful that I never noticed.
Every time I cry, I get a little bit stronger, stronger. I know that angel used to be the devil on my shoulder, shoulder. Oh, not anymore. When the voices get loud, I'm turning them down. Feel good in my body forever and ever. When the tears start to fall, I'm catching them all. And I know the future is better, 'cause every time I cry, I get a little bit stronger, stronger, little bit stronger. Every time I cry, I get a little bit stronger, stronger, little bit stronger. I used to spend the nights inside my head thinking,
where the hell you think you're going?
I used to count the days inside my beer drinking,
but now I'm gone.
When the voices get loud, I'm turning them down. Feel good in my body forever and ever. When the tears start to fall, I'm catching them all. And I know the future is better, 'cause every time I cry, I get a little bit stronger, stronger, little bit stronger. Every time I cry, I get a little bit stronger, stronger, little bit stronger.
Ava Max, Every Time I Cry sur Vivre FM.
Vous écoutez Entre nous
avec Ornella Dampron.
Vivre FM, nous sommes à la troisième partie de notre émission Entre nous, une heure de partage avec tous les jours des invités au parcours de vie différent. Il est 10h40 et on est déjà à la dernière partie. Malheureusement, ça passe trop vite. Je suis en compagnie de cette pianiste de talent, Elisabeth Sombard. On a parlé de votre carrière et encore, j'ai l'impression qu'on a passé juste, même pas à peine un quart de votre carrière, mais il faut que je parle avec vous de quelque chose d'incroyable. C'est votre fondation, la Fondation Résonance.
Oui.
Alors, il faut que vous m'expliquiez, qu'est-ce que c'est cette fondation? Qu'est-ce qu'elle a pour but?
Alors, elle a trois buts, qui est l'enseignement de cette pédagogie, de phénoménologie de la musique, de porter la musique dans les lieux de souffrance. Et là, on fait à peu près, je dis on, parce que maintenant, j'ai formé des professeurs qui sont devenus directeurs de leur filiale dans des pays. On a résonance maintenant en Espagne, en Italie, en Roumanie, au Liban.
Sept pays en tout.
Et en Suisse, pardon ?
Sept pays en tout.
Sept pays, oui.
C'est énorme.
Et donc, on fait plus de 500 concerts dans ces lieux, que ce soit les EHPAD, les hôpitaux, les camps, enfin, tous les endroits où la musique classique ne va pas.
Mais comment Oui.
Oui.
Dites-moi, je vous ai coupé, pardon.
Oui, non. Et tout ça, c'est né non pas d'un projet qui était structuré au départ. Vous voyez, je ne me suis pas dit, tiens, je vais créer la Fondation Résonance, et voilà les buts. C'est toujours né de ce désir d'abord de partager la musique classique au plus grand nombre, de partager cette phénoménologie de la musique et toute la synthèse que j'ai pu faire aussi avec cette femme que j'ai rencontrée, comme je vous racontais tout à l'heure, en Autriche, à Vienne, et qui permet de comprendre qui on est, de faire ce chemin intérieur et ces gammes intérieures autant que les gammes extérieures, mais aussi par des rencontres. je me souviens quand j'étais à Paris, je passais devant un orphelinat, on dit plus comme ça aujourd'hui, mais qui était dans le 18e, et je voyais dans la cour des enfants, et je me suis dit, il faut aller absolument leur apprendre à jouer du piano. Je rentre, je dis, je voudrais parler à la directrice. Ah ben non, il faut prendre rendez-vous. Alors je prends rendez-vous. Je dis, voilà, je viens parce que je voudrais donner des cours de piano aux enfants. Elle me regarde. Je l'ai retrouvée 20 ans plus tard, elle ne m'avait pas oublié, elle m'a dit, vous, quand vous avez une idée en tête. Elle me dit, mais vous ne pouvez pas, c'est pas possible, il n'y a pas de piano. Je dis, mais c'est pas grave, je trouverai le moyen de mettre un piano. Elle me dit, mais non, c'est pas possible, ça ne rentre pas dans le cahier des charges. Comme je ne savais pas ce que c'était qu'un cahier des charges, je suis ressortie. 3 semaines après, j'y retourne, je lui dis, mais mettez ça dans votre cahier des charges.
Oui.
Alors elle me dit, écoutez, voilà, je vous explique, vous seriez une association, bon, encore, on
ça
pourrait
passe.
En parler, mais là, toute seule. Très bien. Un mois après, je reviens, j'ai dit, je m'appelle l'association Résonance. Elle m'a dit, bon, allez, d'accord.
Bon, allez, et ça y est, ça fait 3 fois que je vous vois, j'ai compris, vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout de votre idée, en fait.
Voilà, et donc, c'est comme ça que j'ai créé l'association Résonance, qui était d'abord une association à Paris.
Oui.
Et puis, il y a eu une dame, voilà, qui est inscrite dans ma mémoire éternelle, je dirais, qui était une de mes fans, qui venait toujours à mes concerts. Et un jour, elle est venue dans ma loge et elle m'a dit, je pourrais plus venir. Ah, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben voilà, je dois aller dans une maison de retraite parce que mes enfants, que patali, patala, elle m'explique. Je dis, ben c'est pas grave, je viendrai moi. Je viendrai vous jouer dans votre maison de retraite. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été à cause de rencontres. C'est la relation, finalement, qui crée le projet, qui crée le désir de continuer, d'être en chemin, de marcher, de ne pas s'arrêter, de ne pas laisser les gens sur le bord du chemin, quoi. Et voilà, c'est pour ça que... C'est comme ça, en tout cas, au début, que j'ai créé l'association Résonance et puis la Fondation.
Et vous donnez beaucoup de concerts ?
Alors, il y a une journaliste qui a calculé que j'avais fait 3187 concerts en 25 ans, seulement dans les lieux de solidarité.
Waouh !
Je veux dire, j'en fais plus que 150 par an. Et souvent, les gens me disaient, mais pourquoi tu joues tous les jours tu fais... J'ai dit, mais parce qu'il y a une urgence de faire connaître notre musique, d'aller apporter cette consolation, d'aller apporter cette beauté. Et il faut faire vite, parce que... La musique classique, on est des dinosaures, on n'existera plus. C'est maintenant avec le woke et la cancel culture, c'est une catastrophe qui se prépare pour nous. Donc il faut absolument aller porter ça. Et surtout, mon idée, là, c'était que je savais qu'il y avait un mensonge institutionnalisé qui était celui de dire que la musique classique n'appartient qu'aux gens riches et cultivés. Or, moi, je savais que c'était faux, parce que j'ai joué de la musique classique, comme on dit, dans des lieux les plus improbables où des gens n'avaient même jamais vu un piano, et j'ai jamais vu un être humain qui n'a pas pleuré en écoutant un nocturne de Chopin, l'Ave Maria de Schubert ou que sais-je. Et je savais que cette musique appartient au cœur de l'humanité, dans ce qu'il a de plus beau, et au contraire dans ce qu'il a de plus pur et dégagé d'un savoir qu'il faudrait avoir, vous voyez. Et je dis aux pianistes, aux musiciens d'aujourd'hui, toutes les après-midi, parce que on veut jouer au Carnegie. Bon, ben ça va, j'y joue aussi, mais on y joue une fois par an. Mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Il faut aller tout après-midi. Vous n'avez pas été joué dans un EHPAD ou dans quelque part, est une après-midi perdue. Vous voyez, et ce sentiment-là, depuis 25 ans, a été un moteur. Et dans la crise qu'on vient de passer depuis 2 ans, qui est une crise épouvantable, parce qu'elle a volé aux gens le temps de leur essentiel.
Bien sûr.
Et j'ai une vraie, à la fois une colère, parce que je pense que c'est... Aucun régime n'avait empêché les gens d'accompagner leurs mourants. Je vous ai dit, j'ai mis un piano au funérarium pendant tout le confinement. J'allais jouer 2 heures l'après-midi et la nuit pour tenir compagnie aux mourants, parce que personne ne venait les voir, parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient encore contagieux. Dieu sait quoi. Et puis surtout, on n'avait pas le droit de se déplacer, d'être plus que 3, 5, puis 0, enfin... Et je n'ai jamais vu ça dans aucun régime, même les pires. On a toujours pu accompagner nos mourants et leur faire des funérailles dignes de ce nom.
Oui.
Et vous voyez, c'est très... Enfin voilà, j'arrête là parce que je sais que je ne sais pas si on a le droit de dire tout ce qu'on...
Ah si, mais... on a le droit de tout dire sans tabou, nous, chez nous, vous savez.
Oui, ah oui. D'accord. Et donc, c'est pourquoi je dis d'une part la colère et de l'autre peut-être une gratitude, parce que finalement, il faut transformer notre colère en gratitude. C'est qu'on s'est rendu compte de ce qui est vraiment nécessaire, de ce qui est vraiment essentiel. Et le mot essentiel, beaucoup de personnes ne le connaissaient pas. Mmh. Et on leur a dit que ce qui était essentiel, c'était les magasins de nourriture. Mais en fait, ce qui est essentiel, c'est de se retrouver ensemble dans un culte, dans un concert, dans quelque chose qui nous élève, dans la culture. La culture, c'est la beauté de l'économie. Si on enlève la culture, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et voilà pourquoi je me bats et pourquoi je fais autant de concerts. Alors, moi, je ne joue pas dans les pays en ce moment où on demande le pass, parce que je viens d'une famille où la moitié de ma famille a été fusillée par les bolcheviques et l'autre moitié par les nazis. Donc, tout ce qui discrimine, quelle que soit la raison d'une discrimination, je ne peux pas en être amie d'aucune manière. Donc, il y a des pays où il n'y a plus de passe. Donc là, je viens de faire deux très grands concerts à Londres avec les concertos de Beethoven que je vous ai envoyés, que j'ai enregistrés l'année dernière. Et voilà, j'attends que quelque chose d'une vraie humanité se rétablisse. Je m'excuse parce que mon téléphone, je sais pas.
Je vous entends bien, je vous entends bien.
Vous m'entendez bien, oui. Ah, d'accord. J'attends que quelque chose se remette en place, non pas que c'était mieux avant, hein, il faut jamais penser que c'était mieux avant, mais ce qui est toujours mieux, c'est ce qui permet les vraies rencontres sans discrimination, sans fermeture. Et vous voyez, ce qui est très important avec la musique classique, c'est pas seulement qu'elle est belle et qu'elle fait du bien à l'âme, c'est qu'elle permet une reconnaissance avec notre passé, que nous ne sommes rien sans notre passé. Et dans des régimes qui deviennent très difficiles, on vous explique que vous n'avez plus de passé. Or, admirer un grand compositeur, savoir qu'il y a derrière nous des gens qu'on peut non seulement admirer, mais faire connaître et continuer, c'est très très important. Hein, parce que ça veut dire que si on a un passé, on a un futur, et le futur, c'est
la vie. C'est la vie qui est devant nous.
Mais oui.
Alors Elisabeth, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on se dit tout sans tabou, on y va, on n'a pas peur, alors on va continuer. Si aujourd'hui, Elisabeth, je pouvais réaliser un de vos plus grands rêves, ça serait quoi ?
Mes plus grands rêves... Vous savez, j'ai peur d'enfoncer des portes ouvertes et de dire une banalité, mais j'aimerais que les gens s'aiment, j'aimerais que rien ne soit empêché pour que les enfants puissent continuer leur chemin dans la lumière, dans l'amour. J'aimerais que, voilà, des choses aussi bêtes que ça, en ce moment encore plus que jamais, j'aimerais que on puisse, comme on le fait ce matin ensemble, se parler, tout se dire, argumenter, apprendre, approfondir, et que ce soit toujours possible de faire ça. Pourquoi au fond ? Pour plus d'amour, pour plus de vérité.
L'amour, c'est important, c'est très important. Il faut continuer à s'aimer, surtout. Si en face de vous, même mieux que ça, à côté de vous, apparaissait d'un coup la petite Elisabeth, qui a 9 ans, qu'est-ce que vous avez envie de lui chuchoter à l'oreille ?
Aujourd'hui, je lui dirais de ne pas avoir peur. Et puis, peut-être que, après toutes ces années de travail intérieur, je la féliciterai d'avoir eu du courage et d'avoir traversé au fond tant d'épreuves. Voilà, peut-être que je serais capable de faire ça, de la prendre dans mes bras.
C'est important, c'est très important. Si vous aussi, toute cette interview vous a ému, vous a touché, que vous avez envie surtout d'entendre Elisabeth Sombart jouer au piano, moi je vous invite à aller sur le site www.resonance.org. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations importantes. Elisabeth, c'est déjà l'heure de nous dire au revoir. Alors merci à vous tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci à mon réalisateur Dominique. Une pensée pour Marie aussi aujourd'hui qui travaille avec moi. Merci Elisabeth, pour ce moment musical et lumineux qu'on a pu partager ensemble ce matin.
C'était un podcast Vivre FM.
Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.